L'interview de Studio 45.
Bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui sur Studio 45, nous recevons Julien Rochard, auteur de polar français venu récemment à la Guinguette génoise pour l'émission participative. Il revient dès à présent à notre studio pour parler de son dernier livre et aussi de parler de ses projets à venir. Donc Julien est avec nous. Bonjour Julien.
Bonjour Romuald.
Et merci d'être parmi nous à Studio 45, au local maintenant, c'est une découverte pour toi.
Exactement, merci de ton accueil en tout cas, voilà, je suis ravi d'être ici.
Alors Julien, avant de parler de ton dernier livre, est-ce que tu peux nous rappeler ton parcours? Comment en es-tu venu à écrire des polars?
Très bien. Alors moi j'ai toujours eu un petit peu la littérature dans le sang, on va dire. Notamment par mes parents, hein, voilà, effectivement. J'ai toujours écrit en fait, et quand j'étais plus jeune, j'ai essayé d'écrire un livre. J'avais écrit quelques bribes en fait d'un bouquin, et puis ça s'est jamais concrétisé en fait, malheureusement. Donc le temps a passé, et puis voilà, je suis passé un petit peu à autre chose. Hein. Et puis à un moment donné, je me suis dit, avant mes 40 ans, il faut absolument quand même que j'arrive à concrétiser ce projet, vraiment, qui était un rêve pour moi. Et j'ai écrit mon premier roman qui a été publié, donc Once Upon a Crime, qui a été publié en 2023. Et voilà, j'avais 38 ans, quoi, 38-39 ans. Donc du coup, j'ai réussi mon challenge à écrire un bouquin avant mes 40 ans. C'était quelque chose que vraiment j'avais à cœur et voilà, je voulais le faire. Voilà.
Alors à côté de ça, tu es aussi formateur en langue étrangère. Ton métier t'a influencé aussi sur ta façon d'écrire
Alors mon métier, du coup, favorise, j'ai envie de dire, un petit peu mon écriture, parce que comme j'apprends le français à des personnes étrangères et que j'apprends les langues étrangères, forcément, je maîtrise quand même plutôt bien le français. Donc ça m'a aidé, je pense, pour effectivement tout ce qui est rédaction, orthographe, syntaxe. Ça, c'est un avantage pour moi. Après, mon métier en lui-même, j'écris des romans sombres, donc je suis pas psychologue, je travaille pas dans un asile de fous, je suis formateur en langue étrangère, donc c'est encore différent. En revanche, j'essaie d'intégrer maintenant dans mes livres un petit peu cet aspect linguistique, cet aspect multiculturalité, j'ai envie de dire, avec l'anglais, l'allemand, l'espagnol. Dans mon avant-dernier livre, par exemple, qui se déroule à Pretoria, effectivement, on parle l'anglais, et un petit peu néerlandais, voilà, j'ai des connaissances de néerlandais, donc j'ai intégré quelques phrases sans essayer de perdre le lecteur, voilà.
Et ton premier roman, oui. Once Upon a Crime, t'as fait connaître, donc t'as déjà 6 romans à ton actif.
Exact.
Comment ressens-tu cette évolution depuis tes débuts?
Alors quand je relis un petit peu maintenant mon tout premier livre, j'aurais presque envie de le refaire.
Ah oui.
Voilà, ouais, le réécrire un petit peu, changer des choses.
D'accord.
Et en même temps, je me dis que c'est mon premier bouquin, et qu'il est comme ça et qu'il a plu. Les lecteurs l'ont apprécié tel quel et donc le changer, j'aurais un petit peu l'impression peut-être de trahir un petit peu leur cœur. Voilà, donc je vais le laisser comme ça, mais c'est vrai qu'au niveau des tournures de phrases, voilà, y a des choses que moi, d'un point de vue auteur, je changerais éventuellement, mais il est bien comme ça au final. Donc voilà. L'évolution, moi j'écris maintenant depuis 3 ans. Donc je pense que mon écriture elle a mûri forcément, voilà, j'écris, je trouve, de manière plus poétique parfois, même dans les descriptions un peu plus détaillées, les personnages sont plus approfondis, voilà, moi c'est mon ressenti. Après il y a le ressenti du lecteur aussi, qui préféreront peut-être le premier roman plus rythmé qu'un livre où il y a plus de descriptions, ça après c'est au bon vouloir du lecteur, voilà.
Et forcément, on va se tourner du coup sur ton dernier livre, Supplice,
oui,
qui est sorti depuis ce 1er octobre.
Exactement.
Donc l'histoire nous plonge dans le Pays Basque à Bayonne.
Très bien.
Peux-tu nous en dire un peu plus de l'histoire?
Alors en fait, c'est le commandant, donc Frédéric Roca, et en fait, il a perdu sa fille, voilà, il y a 2 ans par avant. Justine, et donc c'est un homme assez brisé, on va dire, meurtri. Il est sur le point de prendre sa retraite, et en même temps, il y a des meurtres. Voilà, on va retrouver un homme mutilé, torturé, et donc ce commandant va reprendre cette enquête. Voilà, il va se replonger un petit peu au cœur de l'horreur, mais bah, ses démons vont un petit peu ressurgir, son passé va ressurgir, et puis c'est quelqu'un quand même qui est quand même hanté par effectivement la mort de sa fille. Donc c'est un personnage qui a été très intéressant pour moi à développer. Voilà. À côté de ça, on a le capitaine Gabin Jansard qui va être un petit peu son binôme, qui est à peu près dans trentenaire. Le commandant Roca est un petit peu plus âgé. Et donc les deux vraiment ont des personnalités vraiment totalement différentes. Gabin Jansard, c'est un capitaine qui a beaucoup de succès, qui a été promu assez rapidement, voilà. Mais c'est quelqu'un qui est un petit peu moins sur le terrain. Donc les deux sont complémentaires. Donc c'est une histoire qui est très très riche en termes de personnages et forcément très très sombre. Parce qu'on part sur les châtiments de la mythologie grecque, c'est ça les supplices. Voilà, donc c'est un roman qui est assez sombre et voilà que les lecteurs pour l'instant apprécient en tout cas.
Qu'est-ce qui t'a inspiré cette histoire particulièrement sombre, et notamment on parle du personnage principal, le commandant Frédéric Roca, qui est hanté par le meurtre de sa fille, mais aussi peut-être aussi des autres personnages. Est-ce que tu peux nous en présenter quelques-uns?
Alors il y a par exemple, sans tout dévoiler, mais il y a la femme de Gabin Jansard par exemple. Donc il y a une histoire quand même d'amour, une histoire effectivement, il y a un couple en fait au cœur de cette horreur, avec notamment une grossesse, voilà. Sans tout révéler, mais bon, c'est pas évident de pas tout dire. Donc voilà, donc on est vraiment au cœur de l'horreur, et en même temps, il y a cette part de lumière qui va quand même ressurgir. J'essaie toujours d'ailleurs de faire ressurgir un peu de lumière dans mes romans.
D'accord.
Même si ça reste des ambiances très sombres, très anxiogènes. Voilà, évidemment, ça reste des fleurs psychologiques. Voilà, ce sont les trois personnages principaux. Et puis évidemment, si, il y a ce tueur, ce tueur en série qui est aussi un petit peu machiavélique, qui fait pas dans la dentelle, qui rappelle un petit peu le premier roman, pour ceux qui auraient lu le premier roman. Voilà. Après, la mythologie, j'ai toujours aimé la mythologie grecque.
D'accord.
Alors, mon premier roman, c'était les contes pour enfants. Là, c'est un petit peu les mythes grecs.
Ouais, c'est vraiment différent, là. Il y a un écart.
Il y a un écart, mais bon, je prends des thèmes différents. Voilà, donc c'est aussi l'occasion de découvrir la mythologie, mais dans le côté très, très, très noir. Voilà.
Pourquoi tu explores souvent la psychologie, la douleur, la folie? Pourquoi ces univers sombres t'inspirent?
Je sais pas, je dois être psychopathe. J'en sais rien.
Faudrait qu'on fasse un test alors.
Ouais, faudrait peut-être faire un test, je sais pas. Peut-être que je vais finir en asile de fou, j'en sais rien. Non, mais parce que je trouve plus intéressant d'aller sur le côté, sur la noirceur de l'âme humaine, sonder un petit peu cette noirceur, plutôt que la joie de vivre, le rire. Je pense que c'est plus intéressant. Alors, c'est un terrain un peu plus glissant, forcément. Parfois, je me dis, oh là là, est-ce que je peux écrire des choses comme ça, etc. Et en même temps, ça bouscule aussi le lecteur. Je trouve que ça fait réfléchir aussi, beaucoup. La psychologie, je trouve que c'est très, très intéressant. On se met dans la tête d'un tueur aussi, c'est pas évident. Même pour moi, quand j'écris, parfois, je me dis... quand j'écris, parfois, je suis aussi chamboulé, hein, forcément. Ouais, ouais. Et je me mets à la place du lecteur et je me dis, qu'est-ce que lui va ressentir en lisant ce passage? Donc, je trouve que c'est très intéressant. Écrire un passage où il y a du rire, de l'amour, pour moi, c'est... Alors, je dirais pas que c'est plus facile, mais c'est peut-être plus abordable. Voilà, on est peut-être plus à l'aise. Et je trouve que c'est plus... c'est un plus gros challenge d'aller sur le côté psychologie, douleur, folie humaine. En tout cas, c'est ce qui me... Alors, pas ce qui me passionne, parce que les gens vont me prendre pour un fou, mais c'est ce qui me... Voilà, qui me donne envie, en tout cas, de creuser un peu plus à chaque fois. Voilà.
Mais il y a forcément aussi de belles choses, parce qu'on voyage aussi parmi tes livres, et forcément, je prends l'exemple de Paranoïa, L'œil de Phobos, Six, t'emmènes tes lecteurs aux quatre coins du monde, hein,
oui,
Pretoria, ouais. Nouméa, Lyon, pourquoi du coup ces multitudes de destinations, est-ce que c'est une manière pour toi de voyager à travers tes intrigues?
Alors oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, j'essaie de faire voyager au maximum le lecteur, et c'est vrai que voilà, j'essaie toujours de trouver des intrigues pour impliquer le lecteur et qu'il se sente au plus près de l'histoire. Alors Nouméa, c'est parce que mon frère habite là-bas, voilà,
d'accord.
Il habite en Nouvelle-Calédonie, et c'était une demande de sa part. Il m'a dit, pourquoi tu ferais pas un livre en Nouvelle-Calédonie? Je lui ai dit, écoute, je vais essayer. Mais ça reste un pays, une petite île un petit peu paradisiaque. Donc,
oui.
Comment intégrer un côté un peu sombre là-bas? C'était un peu le challenge. Donc, j'ai pas trop mal réussi, je pense. Et j'ai fait vraiment une belle description de Nouméa. Donc, on a l'impression vraiment d'être là-bas. Donc, ça, c'était assez top. Et Pretoria, bah alors ça aurait pu être un peu partout. et je me suis dit, voilà, ces deux jeunes femmes, elles vont faire un voyage. Et je me suis dit, pourquoi pas partir en Afrique du Sud. Voilà, c'est peut-être pas un pays que tout le monde connaît.
Oui, effectivement.
Je le connais pas forcément.
Moi, c'est pareil, je connais pas du tout l'Afrique du Sud, donc j'ai jamais visité.
Du coup, j'ai fait des recherches. Et puis, du coup, j'ai pu intégrer aussi ce côté un peu linguistique. Mm-hmm. Parce que là-bas, bah, forcément, il y a de l'anglais, mais il y a surtout du néerlandais. Hein, c'est les Afrikaners. Oui. On parle néerlandais, il y a une partie néerlandais. Donc, j'ai intégré quelques phrases, mais sans perdre le lecteur, bien évidemment, où je faisais un peu de traduction à chaque fois, où j'expliquais forcément par d'autres tournures. Voilà, mais j'aime faire voyager. Voilà. Mon tout dernier roman, je ne peux pas trop en dire pour l'instant, mais on ne sait pas vraiment où ça se passe, finalement.
Voilà. On n'a pas vraiment de destination.
J'ai pas mis de destination réelle, en fait. D'accord. Alors, c'est dans un hôtel.
Ah, déjà, on a le lieu.
Si tu veux, mais c'est dans un hôtel en bord de mer. Mais finalement, il peut être un peu...
On peut imaginer Nice.
Ça, ou sur une île complètement paumée, c'est possible.
Oui, c'est sûr aussi. Oui, j'y ai pas pensé.
Ça peut être ça.
Et oui, forcément, tes romans sont très visuels et rythmés, oh. Donc on imagine que parfois ça peut être fait pour une adaptation au cinéma ou même pour une série. Hein.
Alors, j'ai eu des demandes, hein. J'ai eu des demandes, notamment sur mon premier livre, Once Upon a Crime, où on m'a dit il faudrait une adaptation Netflix et tout. Bah, je dis, mais c'est pas moi qui décide. Alors moi, tu le sais, hein, j'étais avec Olivier Goujon qui était...
Ah oui, Olivier Goujon, qu'on le salue hein, d'ailleurs.
Voilà, on salue Olivier s'il nous écoute, mais... s'il va nous écouter, mais bon, c'est un peu plus compliqué, voilà, sans rentrer dans les détails, c'est un peu plus compliqué pour lui et pour moi pour l'instant, donc on pourra peut-être pas le faire. Moi, de mon côté, j'ai envoyé effectivement le manuscrit à des productions en fait audiovisuelles.
D'accord.
Voilà, bon, j'espère. J'attends pas de retour miraculeux, mais au moins je l'ai fait.
Oui, il y a déjà une première démarche de fait.
Et je pense que je continuerai parce que on sait jamais. Voilà, après avoir quels seraient les romans que je pourrais faire adapter. Le premier, effectivement, c'est un tueur en série un peu cinglé, c'est une chasse à l'homme effrénée dans Paris. J'aurais moyen de faire quelque chose, voilà.
Ouais, bah oui.
Avis aux producteurs, si vous m'entendez.
Et oui, aux producteurs, notamment même Netflix ou même sur Amazon Prime.
mais bien sûr.
Tout est preneur maintenant,
tout est preneur,
forcément. On sait que tout ce qui est trailer, ça marche très bien au cinéma.
Bien, tout à fait, c'est ça.
Et ben, on va en finir avec la dernière partie, notamment sur tes projets futurs et aussi la rencontre avec le public. Tu as participé notamment à l'émission participative de Linguaguette chiennoise, donc c'était l'année dernière déjà.
Oui.
Qu'est-ce qui t'a retenu ce moment particulier, c'était, on va dire, un peu notre premier événement pour la radio en extérieur.
Ouais.
Donc déjà, je pense que c'était pas ta première expérience aux radios pour être interviewé ici.
Avec toi, non. J'avais déjà eu une première expérience il y a quelques années. Ça devait être peut-être la deuxième, je pense. Alors
le cinéma,
pas de souci avec l'idée. La radio, un peu différent. Mais je crois que ça devait être la deuxième ou la troisième fois maximum, hein, ça c'est sûr. J'en garde un très bon souvenir, très très bon souvenir. Notamment parce que c'était en extérieur aussi. Donc c'est un contexte complètement différent. On n'est pas dans une salle, on n'est pas vraiment dans un studio réel, j'ai envie de dire. Donc c'est très intéressant. Voilà, on voit passer des gens.
Il faisait beau ce jour-là.
Il faisait beau, c'est agréable. ça donne. C'est vraiment un contexte totalement différent. Non, j'en garde un très très bon souvenir et je te remercie d'ailleurs.
Toi, d'avoir pu participer et d'avoir pu donner de ton temps à nos micros. Et notamment, tu fais aussi beaucoup de salons et le contact avec tes lecteurs semble très important pour toi.
Tout à fait.
Est-ce que ces échanges te nourrissent sur ton écriture ou bien, t'inspirent pour d'autres histoires ?
Bien sûr. Alors, j'ai souvent du contact avec les lecteurs et lectrices. Je parle beaucoup avec mon lectorat, effectivement. J'accepte la critique constructive, etc. J'accepte toutes les remarques qu'on peut me faire.
Oui.
Je trouve ça toujours très intéressant d'avoir, parce que le lecteur, c'est la première personne, en fait, qui est juge, hein, évidemment. Après, j'écris pour moi. C'est moi qui ai écrit, voilà. Mais c'est quand même le lecteur qui lit le roman et qui est à même de dire, bah là, moi, j'aurais souhaité autre chose, etc. Donc, je suis très à l'écoute de ça. Et puis, quand je fais des salons, quand je fais des centres commerciaux, le contact, c'est très important. Il y a l'écriture, où moi, quand je suis dans mon bureau, j'écris tout seul. Hein, ça, c'est la partie un peu compliquée du... tout seul. Et puis après, comme tu dis, il y a la rencontre avec les lecteurs. C'est la partie, pour moi, la plus agréable aussi. Quand on me dit, bah voilà, j'ai beaucoup aimé votre roman, voilà, j'aurais aimé peut-être une autre fin, ou j'ai beaucoup aimé ce personnage. Effectivement, il y a des choses qui restent dans ma tête, et je me dis, bah après, bah moi, j'aimerais bien changer ça, ou tiens, je vais partir dessus. Voilà. J'avais d'ailleurs échangé avec une autrice aussi, qui était là, donc c'était pas une lectrice, mais une autrice,
oui.
Voilà. Et du coup, on avait échangé sur une idée de Fuller, etc. Donc, il y a la partie rencontre avec le lecteur, mais aussi la partie rencontre avec tous les autres auteurs aussi, qui est très intéressant, et ça, c'est plutôt bien à prendre aussi. Voilà.
Ces retours-là, et même pour tes intrigues, ça peut t'inspirer pour les prochaines histoires, de refaire des recherches.
Exactement.
Et aussi à améliorer sur le contenu.
Tout à fait, c'est ça, tout à fait. Hein. On peut pas plaire à tout le monde.
Oui,
j'ai des gens
sûr.
J'ai des gens qui adorent, j'ai des gens qui vont dire, bah oui, mais à la fin, moi, j'aurais pensé autrement, voilà, j'aurais aimé que ce personnage soit plus développé, ah bah, je m'attendais pas à ça, ah bah, ça, c'est génial, bon, bah, c'est... voilà. Ça, malheureusement, on peut pas savoir.
Oui.
Donc, moi, quand j'écris, je lance le bébé, et puis, voilà, en prenant en compte les remarques que je peux avoir. Alors, souvent, ce que je fais aussi avant de publier, bien évidemment, je fais de la bêta-lecture, c'est-à-dire qu'en fait, j'envoie mes manuscrits, en fait, à des chroniqueurs, chroniqueuses.
D'accord.
Qui lisent en amont le manuscrit, et qui ensuite me font un retour. Donc sur 5 personnes, si j'ai 4 personnes qui me disent bah c'est top, bon bah je publie. Si j'en ai 4 qui me disent bon bah ça va pas du tout, voilà, je refais dans ce cas-là.
Ouais.
Ça m'est pas arrivé pour l'instant.
Ah donc, ça t'a
pas. Non, c'est ça déjà m'est ça. Pas arrivé, ça m'est pas arrivé.
Heureusement.
Mais si ça m'arrivait, effectivement, je serais obligé quand même aussi pour le respect du lecteur de dire bah bon bah faut que je change, ça va pas, je me suis planté quoi. Voilà.
Oui,
pour
ça
arrive.
Pour l'instant,
je touche du bois. Voilà.
Et forcément, on sait que tu travailles sur ton 7e roman. Alors, c'est prévu pour octobre de l'année prochaine, on est d'accord, non?
On est d'accord. Alors, peut-être avant.
Ah, peut-être avant.
Peut-être avant.
On a pris de l'avance.
En tout cas, voilà, ça a commencé, le roman a commencé en septembre, mi-septembre. Donc, j'ai déjà pas mal avancé, voilà. Je l'ai pas dit, mais j'ai pas mal avancé déjà. Mais je pense pour peut-être le printemps, mais je préfère pas trop m'avancer.
Ouais.
Donc, voilà.
Est-ce qu'on peut avoir du coup un petit indice ou c'est en top secret défense?
On va jouer. On va jouer beaucoup. Voilà.
D'accord. Bon, bah déjà, c'est une première indice hein, pour la prochaine ouvrage.
Exactement.
Et forcément, pour retrouver tous tes ouvrages, est-ce qu'on les retrouve notamment dans les librairies, en vente libre? Aussi, normalement, bah oui, c'est sûr, tu es aussi présent dans les salons.
Oui.
Est-ce qu'il y a un site pour te retrouver en fait toute ton actualité?
Ouais, tout à fait. Alors, le site déjà sur lequel vous pouvez me retrouver, ça s'appelle Roman en Liberté.
D'accord.
www.romanenliberté.fr. C'est une plateforme d'auto-édition. On est 50 auteurs à peu près de mémoire voilà, en auto-édition. Et donc, il y a tous mes bouquins qui sont répertoriés dessus. Et si on clique dessus, ça m'emmène en fait sur Amazon. Voilà. Alors, pourquoi Amazon? Bon, on peut critiquer ou pas, mais ça reste la plus grande librairie en ligne, forcément. Et ça me permet de publier aussi gratuitement mes ouvrages, de les mettre en format numérique et de les mettre en format broché. Voilà.
D'accord.
Après, pour tout ce qui est impression, là, je vais passer par un imprimeur local. Qui va me permettre, du coup, d'avoir des livres un peu plus qualitatifs, je dirais,
ouais.
Que je pourrais présenter dans des salons, centres commerciaux. Tout ce qui est librairie, pour l'instant, c'est un peu compliqué pour moi d'avoir le livre en physique.
En physique, ok.
Voilà, parce que je passe par LibriNova, qui est une plateforme d'auto-édition, et en fait, c'est avec eux que je paye des services.
D'accord.
Du coup, pour avoir le livre en librairie, il faudrait qu'il soit distribué par LibriNova, par cet intermédiaire, et du coup, c'est aussi de l'argent un peu
dépensé.
Oui,
bah, c'est un coup.
Donc, quand on a un seul livre, bon, ça va, quand on commence à en avoir 6,
ouais,
c'est un peu compliqué.
C'est beaucoup.
Voilà, c'est ça. Donc, je cherche un peu des alternatives, et l'imprimeur, c'est plutôt bien, parce que ça me permet aussi de faire travailler un peu le local.
Oui, c'est pour ça.
De ne pas avoir de livraison, et puis d'aller chercher mes livres aussi, d'avoir le plaisir, voilà, donc... C'est ça.
Puis c'est bien, ça fait aussi travailler les personnes du territoire et
exactement.
Forcément, c'est ce qui est important.
C'est important, c'est ça. Donc voilà.
Julien, on va conclure cette interview par ça. Donc, on te remercie encore d'être venu ici à notre studio. Et forcément, on rappelle à nos auditrices et auditeurs que la sortie de ton nouveau livre, Supplice, est disponible depuis le 1er octobre.
Exactement.
Et forcément en format numérique, du coup.
Donc, en format numérique, alors c'est très simple, il est en format numérique à 2,99€ sur Amazon.
Ah, voilà.
Et il va être disponible bientôt aussi.
Très
avec,
abordable.
Voilà, avec LibriNova aussi. Et l'avantage avec LibriNova, c'est qu'il sera aussi en abonnement Kindle. Donc si vous avez l'abonnement, il sera aussi gratuit, forcément, c'est la stage. Et puis il est disponible en format broché, voilà, à 19,90€, qui est le prix d'un roman, aussi sur Amazon. Et sur. Non, pas sur LibriNova, je raconte des bêtises. Il n'est pas sur LibriNova en format broché, il est juste sur Amazon.
Que sur Amazon, du coup.
C'est ça, c'est ça.
On a hâte de découvrir la suite de tes histoires avec plein de suspense et forcément sur ton prochain projet qui va sortir très bientôt.
Oui.
Je vais essayer du coup, de lire Supplice.
Mais bien sûr.
C'est vrai que je ne suis pas non plus un très grand amateur de polar, mais d'accord. Si je peux m'y mettre et forcément connaître les invités, c'est l'occasion.
Je peux donner une dernière info.
Bien sûr.
Le 25 octobre, je serai en dédicace du coup au Super U de Châteauneuf-sur-Loire. Si certains sont à Châteauneuf,
c'est super.
Voilà, le 25 octobre de 10h à 18h. Super U de Châteauneuf-sur-Loire.
Et si vous êtes dans le coin, donc n'hésitez pas à aller voir Julien pour cette séance de dédicace, si c'est ça.
Exactement, c'est ça.
Et cette interview est terminée. Vous pouvez dès à présent le redécouvrir en format podcast, en libre écoute. Donc n'hésitez pas à aller sur le site Studio 45 au www.studio45-radio.fr. Et puis, on continue encore de suivre l'actualité de Julien après cette interview. Et Julien, on se dit à très bientôt.
À très bientôt, Romuald. Merci de ton accueil.
Et merci à vous, chères auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. On se dit à très vite pour un nouveau numéro de l'interview de Studio 45.